seulement.
Oui, un petit peu, hein.
Oui, cet après-midi, 2 degrés seulement, 4 à Strasbourg, 7 degrés à Lyon, 9 à Lille, 10 degrés à Paris, 11 à Brest et à Grenoble, 12 degrés à Bordeaux et à Nantes, 14 à Montpellier, 16 à Marseille et 17 degrés toujours à Ajaccio.
Merci Marion. Bon réveil à tous avec Europe 1, bienvenue.
Voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
À la une, Emmanuel Macron à la tribune du Forum économique de Davos. Aujourd'hui, le chef de l'État va plaider pour une Europe unie face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland. Mais est-il vraiment en position de mener ce bras de fer avec les États-Unis ? Élément de réponse dans ce journal. Ce sera donc un 49-3. Sébastien Lecornu a choisi sa méthode pour faire adopter le budget de l'État au forceps. Le Rassemblement national et les Insoumis annoncent des motions de censure. Ils menacent de faire tomber le gouvernement. Le retour du texte sur la fin de vie au Sénat. Le projet de loi a déjà été largement remanié en commission, mais pas sûr qu'il soit adopté, précision Europe 1 dans ce journal. Et puis du foot, la Ligue des Champions. Le PSG se déplace ce soir à Lisbonne face au Sporting Portugal. 5h sur Europe 1, le journal. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le contexte est inflammable, en pleine tension sur le Groenland entre l'Europe et les États-Unis. Le Forum économique de Davos en Suisse a ouvert ses portes hier. Près de 400 invités, dont 64 chefs d'État y sont attendus. Emmanuel Macron doit s'exprimer à la tribune aujourd'hui. Le chef de l'État compte réaffirmer la voix de la France, plaider pour une Europe plus forte, plus lisible et défendre un multilatéralisme capable de tenir face au choc, Arthur Delaborde.
Pour Emmanuel Macron, Davos est une vitrine et un test. Selon l'Élysée, son message reposera d'abord sur un socle économique. La France est la première destination d'investissements étrangers en Europe. 6 années de suite, son argument central. Il rappellera la baisse des impôts, les réformes du marché du travail. Pour autant, cette solidité affichée est contestée sur le plan intérieur. Son pouvoir est fragilisé. À Davos, il parlera de stabilité alors que la situation politique en France est instable. Son autre pari, ce sera l'Europe, encore et toujours. Selon son entourage, il plaidera pour une Europe plus simple, plus lisible, plus protectrice de son industrie. Il parlera d'autonomie stratégique, mais sans véritable capacité de rapport de force. Emmanuel Macron défendra une méthode rationnelle, structurée, pour, selon l'Élysée, éviter que les pays se lancent dans des guerres ou la coercition économique. Il reste qu'à Davos, une autre logique s'impose déjà, celle de Donald Trump qui s'exprimera demain. La démonstration de force, rapide, visible et taillée pour ce monde qui se durcit.
Arthur Delaborde. Donald Trump toujours déterminé à s'emparer du Groenland. Selon le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, une force militaire américano-canadienne doit bientôt arriver sur l'île. Déploiement planifié de longue date, coordonné avec le Danemark. Pas de quoi pour autant dissiper les interrogations liées à la mise en alerte de la 11e division aéroportée en Alaska étant donné les tensions actuelles.
Pendant ce temps à Strasbourg, des milliers d'agriculteurs sont mobilisés aujourd'hui contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.
3 jours après la signature de ce traité de libre-échange et à la veille d'un vote sur une saisine de la justice, les syndicats entendent mettre la pression sur les députés européens. Selon Hervé Lapi, secrétaire général de la FNSEA, 600 à 700 tracteurs doivent affluer aujourd'hui. Il sera l'invité de Dimitri Pavlenko dans Europe 1 matin à 7h10.
À la une également ce matin, le budget de l'État en passe d'être adopté, mais au forceps.
Oui, Sébastien Lecornu l'a annoncé hier à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel. Le Premier ministre va déclencher aujourd'hui l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. La réaction des oppositions ne s'est pas faite attendre. Le RN et la France Insoumise vont déposer une motion de censure. La question se pose donc, Alexis de la Fontaine. Le gouvernement peut-il être à nouveau renversé ?
Eh bien, selon les derniers décomptes d'Europe 1, Sébastien Lecornu devrait rester en poste. Seulement 275 députés sur les 289 nécessaires devraient voter la motion de censure. Grâce à ces dernières concessions, comme la hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou la création d'une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le Premier ministre s'est assuré le soutien du Parti socialiste. À droite, la pilule reste difficile à avaler pour les Républicains, car Sébastien Lecornu n'a pas à respecter les lignes rouges présentées par Laurent Wauthier. Laurent Wauthier qui réfléchit encore à censurer le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, cela ne fait aucun doute. Ce budget va causer de la dette en plus, des emplois en moins et un pouvoir d'achat en berne pour les Français. Mais selon les informations d'Europe 1, les Républicains devraient finalement ne pas voter la motion de censure car ils souhaitent passer à autre chose. Je préfère adopter ce budget qu'une nouvelle crise politique, conclut un député de droite.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen à la barre, la chef de file du RN va être interrogée cet après-midi et toute la journée de demain dans le cadre du procès en appel des assistants parlementaires du Front National, condamnés en première instance à 4 ans de prison, 100 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Marine Le Pen joue gros. De l'issue de ce procès dépendra sa participation à la prochaine présidentielle.
Il est 5h05, vous écoutez Europe 1, bonjour.
Le projet de loi sur la fin de vie, de retour aujourd'hui au Sénat.
Avec plusieurs mois de retard, mais Emmanuel Macron tient à aller jusqu'au bout de ce processus législatif pour ce texte emblématique de son deuxième mandat. Les sénateurs l'ont déjà profondément modifié en commission, imposant des critères d'accès plus stricts que les députés, mais sans garantie qu'il soit adopté, Maïalène Trémollet.
C'est un texte qui se veut plus restrictif et qui renomme le droit à l'aide à mourir voulu par les députés assistance médicale à mourir. Une assistance dont aucun patient ne peut bénéficier si son pronostic vital n'est pas engagé à court terme et non plus à moyen terme. Et ce n'est pas tout, cette copie supprime également le délit d'entrave, instaure une clause de conscience des pharmaciens, des verrous nécessaires pour Christine Bonfanti, sénatrice LR et rapporteure du texte présenté aujourd'hui.
Pour éviter le pire, nous avons essayé de donner des critères stricts. Notre loi à nous est faite pour les gens qui vont mourir, tandis que la loi de l'Assemblée nationale est faite pour les gens qui veulent mourir.
Aucune certitude cependant que cette version du texte soit rendue définitive, d'abord parce qu'elle pourrait ne pas être votée par le Sénat, où les opposants à l'euthanasie, comme Bruno Retailleau par exemple, sont plus nombreux qu'au Palais Bourbon. Ensuite parce que même si elle était votée sans être modifiée par les sénateurs, la copie doit néanmoins repasser une fois devant l'Assemblée nationale, puis à nouveau devant la Chambre haute, au risque d'être plusieurs fois vidée de sa substance.
Maïalène Trémollet.
Le foot à 5h06 sur Europe 1 avec la reprise ce soir de la Ligue des Champions. Le PSG se déplace à Lisbonne.
Oui, les Parisiens vont affronter le Sporting Portugal lors de la 7e journée de la phase de groupe. Coup d'envoi 21h à suivre sur Canal+, évidemment. À 2 journées de la fin, les joueurs de Luis Enrique, qui avaient fait match nul en décembre dernier à Bilbao, vont tenter de s'imposer face au club lusitanien. Un succès et Paris serait tout proche d'une nouvelle qualification 8e de finale de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie.
Oui, le PSG se déplace au stade José Alvalade, une enceinte bouillante. Les coéquipiers de Marquinhos vont défier le champion du Portugal en titre, vainqueur en début de saison de l'Olympique de Marseille. Objectif gagné afin d'être pratiquement assuré d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le PSG pourra s'appuyer sur son excellent défenseur portugais Nuno Mendes, qui va affronter ce soir son club formateur, non sans émotion.
C'est une fierté de revenir à la maison. Ça va être un match spécial pour moi. Un peu de pression, normal, c'est un match de Champions League, mais on essaie d'être au mieux niveau pour essayer de gagner.
Et l'atout principal du PSG sera ce soir Ousmane Dembélé, bien sûr. Le ballon d'or qui a marqué vendredi dernier face à Lille, un but somptueux, est à nouveau au sommet de son art, confirme le consultant d'Europe 1, Alain Giresse.
Quand on marque un but comme il a marqué, c'est la démonstration qu'effectivement, on a retrouvé tous ses moyens. Il a bien récupéré de sa blessure. Et ce qui lui permet, quand il est dans cet été-là, de sortir comme ça des gestes qui font partie des très grands joueurs.
Éliminé de la Coupe de France par le Paris FC, le PSG veut défendre sa couronne en Ligue des Champions et fera tout pour s'imposer ce soir à Lisbonne.
Cyril de la Morinerie, un petit mot de l'Open d'Australie qui se joue en ce moment. Hugo Humbert, Giovanni Pecci-Pérécar et Gaël Monfils jouent à l'heure qu'il est pour leur qualification au second tour. Chez les femmes, Varvara Grasheva s'est qualifiée cette nuit pour le deuxième tour.
Merci Fanny Marceau. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Il est 5h08. Cette semaine, vous redécouvrez en podcast une émission mythique. Elle s'appelait 5-6-7, émission musicale d'Europe 1, présentée dans les années 70 par Jacques Ourevitch et où les stars venaient chanter les tubes d'autres artistes, Marion.
Eh oui, concept incroyable. Écoutez cet extrait. Claude François chantait une belle histoire de Michel Fugain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Au cœur des archives, l'émission 5-6-7. C'est un podcast à ne pas manquer et à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1.
Bon réveil à tous ce mardi 20 janvier.
Dans quelques instants, c'est votre revue de presse internationale sur Europe 1.
Avec cet hommage unanime au grand couturier Valentino, mort à 93 ans, nous serons dans un instant avec le correspondant d'Europe 1 à Rome. D'abord les courses, Thierry Léger, c'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 502 Goujon Bleu, auteur de bons débuts sur les haies paloises le 14 décembre, où ce jour-là le terrain était déjà collant. Il devrait pouvoir, à la faveur de quelques progrès attendus, lutter activement pour la victoire et pourquoi pas ouvrir son palmarès dès cet après-midi. Alors notez bien pour Pau, Réunion 1, dans la cinquième course, le numéro 2, Goujon Bleu.
Merci Thierry, vous revenez après le journal de 5h30 sur Europe 1 avec vos pronostics du Quintet. Dans deux minutes, Marion, votre histoire dingue. Vous allez nous raconter ce matin une demande en mariage en public.
Oui, alors attention Alexandre, pour la première fois dans Europe 1 Bonjour, mon histoire dingue ne se finit pas très bien. Bon, rien de grave non plus, mais c'est vrai qu'un jeune homme n'a pas passé un très bon moment.
Vous allez nous raconter.
Il est 5h10 sur Europe 1.
La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi.
Bonjour.
Correspondant d'Europe 1 à Washington. Rémi, qu'est-ce qui fait la une des médias américains ?
Ça continue de chauffer dans le Minnesota. Plusieurs chaînes de télé comme PBS et CBS News rapportent que le Pentagone s'apprêterait à envoyer quelques 1500 militaires sur place pour tenter de contenir les émeutes qui font rage dans l'État contre la très décriée police de l'immigration, l'ICE. Une mesure anticonstitutionnelle selon le maire de Minneapolis, où se concentrent les tensions. Mais comme le rappelle Associated Press, Donald Trump souhaite employer l'Insurrection Act, une loi de 1807 qui lui permet justement de déployer des troupes pour des actions de maintien de l'ordre. Et selon le média Bloomberg, le FBI chercherait des volontaires dans ses rangs pour des missions temporaires à Minneapolis. Une surenchère policière qui ne fait pas l'unanimité. Selon un sondage du Washington Post, une majorité d'Américains désapprouve la réponse de l'État aux manifestations en cours dans le Minnesota.
Nous sommes aussi ce matin en Italie. Antonino Gallofaro, vous êtes à Rome pour Europe 1. À la une de tous les journaux en Italie, la mort à 93 ans du grand couturier Valentino, l'empereur de la mode.
Sa renommée transcende les goûts et même les générations, comme l'écrit D, le supplément mode de la Repubblica. Tout le monde sait qui il était et tout le monde sait à quel point ses créations et ses idées ont marqué les mœurs. Le magazine résume avec une maxime le style et la carrière du styliste, une maxime qu'il aimait répéter « Que désirent les femmes ?» Être belle. Morière à Rome à 93 ans, Valentino était l'élégance incarnée pour le magazine Io Donna. Le designer de la Grande Bellezza à la Grande Beauté, célèbre pour la pointe de rouge qui porte désormais son nom. L'empereur rejoint donc le roi Giorgio, autrement dit Armani, mort il y a quelques mois. Deux amis jamais rivaux, selon Il Giorno, deux âmes consacrées à la mode qui ont écrit l'histoire.
Nous partons enfin au Maroc. Alexandre Aublan, vous êtes à Rabat pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse marocaine ?
Eh bien, c'est l'annonce fracassante du Premier ministre Aziz Arhanouche qui a déclaré ne pas être candidat aux prochaines élections législatives de septembre 2026. L'annonce, ça fait l'effet d'une bombe, estime le journal La Vie Écho. Réputé proche du roi Mohamed VI, Aziz Arhanouche était pressenti pour un second mandat, mais il fait les frais des manifestations de la génération Z qui ont secoué le Maroc entre septembre et octobre, détaille le magazine Tel Quel. Accusé de conflit d'intérêts, une partie de la jeunesse avait réclamé sa démission. Le chef du gouvernement étant aussi l'un des hommes d'affaires les plus riches du Maroc, selon le site d'information Le Desk. Alors qu'approche la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc organisera avec l'Espagne et le Portugal, la presse marocaine veut croire que le retrait annoncé du Premier ministre est avant tout une décision du palais, le roi voulant à tout prix éviter le risque d'une nouvelle crise sociale.
Alexandre Aublan, correspondant d'Europe 1 au Maroc.
C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h13. À suivre dans 5 minutes, les initiatives en France, Alexandre.
Oui, des produits d'hygiène. Ce matin, Marion, toute une gamme. Alors, elle est à la fois économique et écologique. Vous les recevez à la maison, ces produits, sous forme solide. Mmh. Vous les diluez ensuite. Toutes les explications dans 2 minutes maintenant.
Europe 1.
D'abord, à bientôt 5h15 sur Europe 1. Marion, votre histoire dingue. C'est l'histoire d'une demande en mariage en public.
Tout à fait Alexandre, et quoi de plus émouvant qu'une belle demande en mariage? Voilà, que la demande soit faite en toute intimité ou en public, hein, c'est toujours aussi beau, c'est l'amour avec un grand A. Quoique, C'est beau si tout se déroule bien. Oui. Parce que là, je vous l'annonce directement, aujourd'hui, c'est ma première histoire dingue qui ne finit pas très bien. Alors, rien de dramatique en soi, mais la demande, c'est vrai, à virer au malaise.
Alors, on va poser le cadre. ça se passe en Australie, Marion.
Exactement.
Et en plein milieu d'un concert.
Voilà, à Brisbane, où le groupe de rock Bootleg Rascal se produisait. Ça, c'est un extrait de leur dernier titre, hein, comme ça vous voyez un petit peu le style. Alors eux, ils se décrivent comme de grands romantiques. Ils sont toujours partants pour que leurs fans se déclarent leur amour pendant leur concert. Donc une fois de plus, ils avaient accepté la requête de cet homme qui voulait demander la main de sa compagne sur scène. Au moment venu, le jeune homme a donc été invité à monter aux côtés du groupe. Il a pris le micro, il a appelé sa petite amie à venir le rejoindre, puis il a expliqué être venu voir ce groupe en couple il y a quelques années.
Bon, alors évidemment, comme vous nous avez dit, Marion, que ce groupe était coutumier du fait, le public a compris tout de suite ce qui allait se passer.
Oui, ils se sont mis à crier, à sortir leur téléphone pour immortaliser le moment. Le jeune homme s'est donc agenouillé, il a commencé sa déclaration. Mais visiblement, sa copine n'était pas dans le même état d'esprit que lui. Hein. Dès le début, elle a tenté de le relever quand il a posé un genou à terre.
Aïe, elle a
fait non, non, non de la tête, jusqu'au moment où son malaise était tellement grand qu'elle est carrément partie. La gênance pour le pauvre amoureux déçu et pour tous les gens présents dans la salle.
C'est un petit peu le mot, effectivement, Marion. Alors, on imagine le moment de flottement dans la foule après tout ça.
Alors, c'était assez partagé. Hein. Certains ont hurlé dans le public entre moquerie et désarroi quant à l'ex-futur jeune marié. Il est resté bloqué, genou au sol, avant qu'une personne déguisée en Scooby-Doo ne vienne lui faire un câlin. C'est lunaire, hein, je sais.
Ah, c'est complètement lunaire.
Mais je vous assure que tout cela s'est passé comme ça. Je peux vous partager la vidéo, bien sûr, sur la page Facebook d'Europe 1 Bonjour. Comme ça, vous allez partager le malaise général. Il n'y a pas de raison que je le garde pour moi toute seule.
Et puis
c'est trop lourd à porter. Et puis après cette scène, surtout, il a fallu reprendre le concert.
Ouais, ce qui n'est quand même pas simple pour le groupe qui se produisait ce jour-là sur scène.
Ça, c'est sûr. Carlos Lara, le chanteur du groupe, a confié ne jamais s'être senti aussi mal à l'aise sur scène de toute sa vie. Mais the show must go on, hein, comme on dit. L'équipe s'est quand même assurée que l'homme est conduit à aller bien. Puis il n'a pas perdu sa soirée puisqu'il a quand même reçu un t-shirt en cadeau. Voilà, que demande le peuple.
Bon, bah écoutez, c'est déjà ça, allez.
Non, c'est horrible, on souhaite ça bien sûr à personne. Alors beaucoup ont quand même pensé qu'il s'agissait d'une opération marketing de bootleg Rascal, parce qu'un de leurs derniers singles parle de rupture, mais ils ont assuré que ça n'avait absolument pas été mis en scène. Bon, moi je ne serais pas étonnée que leur prochaine chanson s'appelle She Said No. Voilà, je leur lance Elle a dit non, pourquoi pas. Bon, évidemment, la vidéo est marrante, mais on pense à ce jeune homme, c'est quand même terrible.
Bon, morale de l'histoire, quand on veut faire une demande surprise en mariage, attention, l'effet boomerang.
Oui, assurez-vous quand même que la jeune femme est partante. Parlez-en.
Et puis une autre morale peut-être, attention au Scooby-Doo.
Exactement.
Hein. Si vous voyez quelqu'un déguisé en Scooby-Doo, mauvais présage.
Prudence.
Votre histoire dingue, merci Marion.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Bon réveil, 5h16 sur Europe 1, le journal permanent, Fanny Marceau.
Le volet recette du budget de l'État, enfin adopté cet après-midi. Sébastien Lecornu va engager la responsabilité de son gouvernement via l'article 49.3 de la Constitution. Emmanuel Macron a salué hier une copie budgétaire qui permet de contenir le déficit à 5% du PIB et au pays d'avancer. Le RN et LFI ont déjà annoncé déposer des motions de censure. Emmanuel Macron à la tribune du Forum économique de Davos en Suisse aujourd'hui. Le chef de l'État compte plaider pour une Europe plus unie, plus forte, alors que Donald Trump multiplie les menaces commerciales pour s'emparer du Groenland. 3 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui en Espagne, au lendemain de l'accident de train qui a fait au moins 40 morts dimanche soir. Le couple royal est attendu sur les lieux du drame aujourd'hui. Le Premier ministre Pedro Sanchez a promis une transparence absolue sur la catastrophe. Des milliers d'agriculteurs à Strasbourg aujourd'hui vont debout contre l'accord entre l'UE et le Mercosur signé samedi dernier. La circulation dans la capitale alsacienne s'annonce d'ores et déjà très compliquée. Près de 5 tonnes de cocaïne saisies par la Marine nationale sur un navire de pêche en Polynésie. Le bateau battait pavillon togolais. Il était parti d'Amérique centrale, intercepté le 16 janvier. Sa marchandise était destinée au marché australien. Elle était convoyée par 10 marins du Honduras et un équatorien. L'Australie, où se joue d'ailleurs l'Open d'Australie, Hugo Humbert, Giovanni Pecci-Péricard et Gaël Monfils jouent en ce moment leur ticket pour le deuxième tour. Valentin Royer et Hugo Gaston entreront en lice également dans la journée. Chez les femmes, Varvara Gracheva s'est qualifiée cette nuit pour la suite de la compétition.
Merci Fanny Marceau. Avant le journal de 5h30, dans 10 minutes, sur Europe 1, vous allez écouter ce matin Vanessa Paradis.
Et le titre, Les épines du cœur, extrait de son dernier album, Le retour des beaux jours.
Dans les initiatives en France, à 5h18, sur Europe 1, ce matin, une gamme de produits d'hygiène économique et écologique. Bonjour Émeric Grange.
Bonjour Alexandre.
Vous êtes le cofondateur de 900 Care. Alors depuis 2019, vous développez une gamme de produits d'hygiène, de soins du corps et d'entretien de la maison. Vous dites qu'ils sont à la fois meilleurs pour la santé, pour la planète et pour le portefeuille. Alors on va prendre tout ça dans l'ordre. D'abord, pourquoi meilleur pour la santé ?
On est parti d'un constat simple, c'est que quand on achète un gel douche en supermarché, on achète une bouteille en plastique qu'on va jeter, qui est rempli à 90% d'eau, qui a voyagé sur des milliers de kilomètres avant d'arriver chez vous, alors que vous en avez au robinet. Donc nous, on a une idée un peu folle, c'est de se dire, et si on arrêtait de vendre du plastique, si on arrêtait de vendre de l'eau, et si à la place, on vendait que les 10% d'ingrédients actifs. Donc ça a la forme d'un petit bâtonnet de poudre compactée. Il faut imaginer un bouchon de liège. Vous mettez deux petits bâtonnets dans une bouteille réutilisable, vous rajoutez l'eau du robinet, et vous recréez tous vos produits du quotidien. Le gel douche, le dentifrice, le déo. Sauf que vous jetez pas de plastique, et vous transportez pas d'eau.
Tous les produits du quotidien, effectivement, alors on va pas tous les citer, mais justement, quels sont les produits que vous proposez sous cette forme-là ? C'est une forme solide, en fait, à la base, hein ?
Oui, on propose du coup gel douche, dentifrice, déo, shampoing, gel pour les mains, et depuis peu, on propose également toute une gamme d'entretien pour la maison, donc lessive, lave-vaisselle, liquide vaisselle.
Donc, je disais meilleur pour la santé, avec un soin apporté à la composition, aux ingrédients également.
Exactement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un gel douche classique, la moitié du coût de fabrication, c'est la bouteille. Nous, on enlève cette bouteille, ce qui fait qu'on a plus d'argent à investir dans la qualité des ingrédients. Ça nous permet d'utiliser des ingrédients d'origine naturelle. Tout est fabriqué en France. Et récemment, on a été élu meilleur gel douche sur une revue de 13 gel douche par 60 millions de consommateurs.
Oui.
Grâce à la qualité de ces ingrédients.
Bon, alors meilleur pour la planète, on a bien compris, Aymeric Grange, un système rechargeable, la lutte contre le plastique à usage unique, c'est toujours un problème aujourd'hui, effectivement, le plastique à usage unique, en tout cas dans les cosmétiques et quand on parle de produits dans la maison, c'est la quasi-totalité de l'offre dans les rayons aujourd'hui.
Exactement. Et nous, on a une vision et une mission qui est de faire du rechargeable la nouvelle norme du rayon. Et on pense qu'on a une solution qui est très adaptée parce que c'est une solution qui est sans compromis. Il n'y a pas de compromis d'utilisation parce que ça reste un gel douche liquide comme on aime une fois qu'on l'a reconstitué. Il n'y a pas de compromis sur les ingrédients. Il n'y a pas de compromis sur la sensorialité. Et surtout, il n'y a pas de compromis sur le prix puisque nos gels douches, aujourd'hui, une recharge, ça coûte 2,49€, ce qui est en ligne ou inférieur à ce que vous trouvez dans un supermarché avec une grande marque.
Oui, c'est pas trop de manipulation. Alors là, vraiment d'un point de vue pratique, quand on fait ses recharges, etc., c'est facile, c'est rapide, c'est pas trop fastidieux.
Alors c'est très très simple. C'est vraiment deux petits bâtonnets que vous mettez dans une bouteille, vous rajoutez l'eau du robinet jusqu'à un petit frais, et vous laissez reposer toute une nuit. Et le lendemain, c'est prêt à s'utiliser.
Voilà, ça se dissout pas instantanément. Il faut anticiper quand même, hein.
Voilà, c'est pas instantané, mais disons que comme une bouteille de gel douche, ça va vous durer au moins un mois. Ça, vous le faites une fois par mois, c'est comme si vous alliez faire vos courses, quoi.
Et alors, pour être bien clair, les contenants, les récipients en plastique, ce sont des contenants que vous fournissez. On peut utiliser à peu près n'importe lesquels. Il faut faire attention.
Alors, il y a quand même des questions de compatibilité. Donc, nous, on est obligé de fournir les contenants.
Oui.
Dans la pratique, c'est vrai que moi, j'ai pu l'utiliser avec d'autres contenants et que ça n'a pas posé de problème, mais on recommande quand même nos contenants à nous. Sur notre site, on offre ces contenants au premier achat avec notre système de kit d'essai. Et en rayon, puisqu'on est disponible dans 2300 points de vente, cette première bouteille est vendue. Donc on a un premier kit avec une bouteille, une recharge, qui va coûter, en tout cas nos prix recommandés, c'est 3,99€. Et puis ensuite, vous rechargez seulement pour 2,49€.
Bon, et alors, vous fonctionnez par un système par abonnement, hein ?
Alors on a les deux. Sur notre site, en effet, on vend avec un système d'abonnement. Parce que c'est un produit qui se prête très bien à l'abonnement, c'est très facile de prévoir sa consommation. Nos produits sont tout petits, donc ils passent très facilement dans la boîte aux lettres, donc c'est très facile de se faire livrer.
Oui.
Et on a tout un tas de gens qui adorent ça. Et puis on a aussi tout un tas de gens qui disent l'abonnement c'est compliqué, ou peut-être la charge mentale, je préfère acheter en rayon. Donc depuis 2025, on a décidé de mettre nos produits à disposition également dans les grandes enseignes. Donc on est passé de 0 point de vente à 2300 points de vente.
Ah, la fameuse charge mentale. Bah alors si on parle de l'abonnement, on choisit de manière complètement flexible à quelle échéance, à quelle régularité on va recevoir comme ça à la maison ces recharges pour en faire le plein ?
Oui, en fait on appelle ça abonnement dans un souci de transparence, mais on pourrait limite appeler ça livraison programmée, puisqu'en fait tout est très très flexible,
oui.
Il n'y a aucun engagement, on peut se désabonner à n'importe quel moment, on peut ajuster ce qu'on met dans son panier ou pas. On peut repousser une commande, on peut changer la fréquence. Enfin, tout est très, très modulable. L'idée, c'est pas de piéger les gens. L'idée, c'est vraiment d'offrir plus de facilité dans leur gestion de leurs produits d'hygiène au quotidien.
Alors, avec vos produits, votre gamme de produits d'hygiène, de beauté pour la maison, je le rappelle, vous vous développez très vite, hein, plusieurs levées de fonds et puis un chiffre d'affaires vraiment, Émeric Grange, qui décolle. Hein.
Oui, on a passé l'année dernière les 10 millions de chiffre d'affaires, donc on est très très content de ça. Après, il faut mettre ça, et puis on a un autre chiffre qui nous plaît, enfin qui nous parle beaucoup, c'est 10 millions de bouteilles plastiques évitées depuis notre lancement.
Eh oui.
Ça, c'est vraiment un chiffre fantastique. Après, il faut mettre ça au regard de, je crois que le chiffre de gel douche, c'est 180 millions de gel douche qui sont jetés chaque année en France. Donc on a encore du travail avant de réussir à notre mission qui est de remplacer les bouteilles à usage unique.
Bon, alors vos produits, vous l'avez dit, alors ils sont disponibles en ligne, bien sûr, mais on les retrouve désormais, effectivement, dans la grande distribution également. Hein.
Voilà, toutes les grandes enseignes, que ce soit Carrefour, Leclerc, Intermarché, Coopérative U, on a énormément de points de vente et on a sur notre site la liste de tous les magasins qui distribuent nos produits.
Voilà, 900 Care, 900 points Care comme Take Care en anglais, votre gamme de produits d'hygiène et d'entretien de la maison économique et écologique. Merci Émeric Grange.
Merci Alexandre.
Co-fondateur de 900 Care sur Europe 1.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h.
Alexandre Lemaire.
Il est 5h24. Bon réveil à tous. Avant de retrouver le journal de Christophe Lamarre, Marion, un réveil en musique.
Et oui, on écoute Vanessa Paradis. C'est les épines du cœur sur Europe 1. Très bon réveil et très bonne journée. Vanessa Paradis sur Europe 1 et le retour sur scène de Vanessa Paradis est très attendu. Sa tournée commencera à l'Arena d'Aix-en-Provence, ce sera le 26 mars prochain.
Ben, ça va arriver très vite,
oui.
Bienvenue si vous nous rejoignez ce mardi matin sur Europe 1. Dans la prochaine demi-heure à suivre, Marion, dans 20 minutes, le Club Culture avec le livre de Nicolas Carreau.
Nicolas vous présentera le nouveau roman Roman addictif, hein, ce sont ces mots de Delphine de Vigan.
Comme chaque mardi, Emmanuel Ducrot et ses voyages en Absurdie.
Oui, ce matin, Emmanuel Ducrot vous parlera de notre perte de souveraineté alimentaire, hein, sur les produits de la mer.
Ce sera à 6h05. Après le journal, la loi sur la fin de vie, elle arrive aujourd'hui sous une forme remaniée au Sénat. Alors, on ne parle plus effectivement d'aide, mais d'assistance médicale à mourir. Une partie des soignants sont toujours aussi inquiets. Mon invité ce matin pour en parler, le docteur Ségolène Perrucchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, elle sera avec nous dans 10 minutes.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. avenir-rénovation.fr.
Le temps pour ce 20 janvier, Marion, amélioration progressive sur le pourtour méditerranéen.
Oui, aujourd'hui l'épisode méditerranéen devrait se terminer, mais vous l'avez dit, progressivement. Parce que les fortes pluies vont se poursuivre encore sur le Roussillon ce matin, avec toujours des débordements de cours d'eau dans l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Il va falloir rester prudent, ces pluies vont régresser cet après-midi, mais pour le moment, les départements sont toujours en vigilance orange. La Corse aussi reste sous vigilance avec un temps pluvieux tout au long de la journée. Alors sur le reste du pays, les grisailles et les brouillards seront très nombreux ce matin. Au lever du jour, on en a déjà actuellement des brouillards parfois givrants dans le nord-est, prudence. Mais des éclaircies vont se développer, ça c'est la bonne nouvelle, cet après-midi, sur tout l'est du pays, entre la Provence, les Alpes et l'Alsace. Près de l'Atlantique aussi, il va faire très beau autour du Pays Basque. Ailleurs, beaucoup de nuages et malheureusement, déjà l'arrivée d'une nouvelle perturbation active par le Finistère. De la pluie et de fortes rafales de vent au programme, jusqu'à 90 voire 100 km/h. Côté température, vous aurez cet après-midi 3 à Strasbourg, 7 à Reims, 8 à Dunkerque, 9 à Saint-Étienne, 10 degrés à Paris, 11 à Angers, 12 à Vannes, 13 à Pau et 16 degrés à Nice.
Merci Mario Gagnon, bon réveil à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
À la une, en avant pour le 49-3, Sébastien Lecornu va engager aujourd'hui la responsabilité de son gouvernement pour faire passer le budget. Le Premier ministre va l'utiliser une première fois cet après-midi sur la partie recettes. Deux autres 49-3 devraient suivre. La surprenante initiative de Donald Trump. Le président américain crée un conseil de la paix. Ticket d'entrée pour les États membres, $1 milliard en cash. Donald Trump cache à peine son ambition avec cette nouvelle instance de se substituer aux Nations Unies. La crise du Groenland et la volonté américaine de s'emparer de ce territoire est au cœur du forum de Davos. Discours d'Emmanuel Macron prévu aujourd'hui à 14h. Donald Trump attendu, lui, demain. Et puis, la reprise des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public après un mois d'interruption. Son rapporteur, Charles Lalonde, sera particulièrement surveillé. La personnalité et le style de ce député UDR alimentent la polémique. Il est 5h30 sur Europe 1, le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le gouvernement abat la carte 49-3 pour faire adopter sans vote le budget 2026. Le Premier ministre contraint de renier sa parole et de lâcher les cordons de la bourse pour s'assurer le soutien des socialistes. Le PS promet en effet de jouer les pare-feux face aux deux motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise. Sébastien Lecornu qui a justifié son choix hier en conférence de presse.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. J'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps, pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Au fond, c'est ma ligne quand même depuis le mois de septembre, discuter avec tout le monde, trouver des lignes de compromis, travailler le plus sérieusement possible, tenir le gouvernement le plus loin possible de l'échéance présidentielle et au fond, refuser le désordre là où d'autres en font commerce.
Sébastien Lecornu, hier en conférence de presse, le Premier ministre devrait utiliser l'arme constitutionnelle du 49-3 à trois reprises, dès aujourd'hui à l'Assemblée sur la partie recettes, puis sur le volet dépenses et enfin sur la totalité du texte après son passage au Sénat.
Donald Trump veut-il enterrer les Nations Unies ? En tout cas, le président américain va mettre sur pied un conseil de la paix, $1 milliard le siège.
Au départ, cette instance devait permettre la reconstruction de Gaza, mais la charte qui vient d'être publiée n'en fait pas mention explicite. explicitement. Si elle voit le jour, cette organisation aurait un objectif bien plus large, celui de résoudre les conflits dans le monde. Tiens, tiens, ça nous dit quelque chose. Une soixantaine de pays ont été sollicités. Le Maroc a dit oui, la France a dit non. Il faut dire que le prix du siège n'est pas donné, Antoine Biabot.
Oui, $1 milliard en espèces, voilà le prix demandé par Donald Trump aux États qui souhaiteraient intégrer son Conseil de la paix. Un montant exorbitant, mais qui n'a rien de surprenant, selon le géopolitologue Frédéric Ancel.
Trump considère qu'il a déjà beaucoup trop payé pour la stabilité au Proche-Orient, donc il faut que ça rapporte. C'est du Trump dans le texte. Le nord de sa boussole, ça a toujours été le mercantilisme absolu.
Objectif de ce Conseil, selon Donald Trump, garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Il s'agirait donc d'une sorte d'entité concurrente à l'ONU, avec cependant des règles bien différentes. Trump en serait le président autoproclamé et le seul à pouvoir inviter de nouveaux États à rejoindre le Conseil. Le président américain serait aussi doté d'un droit de veto systématique sur les votes, tout en ayant la main sur l'agenda des débats. Invité comme une soixantaine d'autres pays à rejoindre ce Conseil, la France a décliné hier la proposition de Donald Trump en rappelant son attachement à la Charte des Nations Unies.
Antoine Bienveau, Donald Trump attendu demain au Forum économique mondial de Davos dans les Alpes suisses. Le président américain a prévu de débarquer en force avec une importante délégation. 800 personnes l'accompagneront. Il interviendra à la tribune après les Européens. Discours d'Emmanuel Macron prévu aujourd'hui à 14h.
Il est 5h34, vous écoutez Europe 1, bonjour.
Après un mois d'interruption, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public reprend ses travaux aujourd'hui.
Avec l'audition cet après-midi du comité d'éthique de Radio France, exercice scruté de près, tout comme l'attitude du rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire. Charles Alloncle essuie les remarques acides et les critiques, le député UDR de l'Hérault accusé de tous les maux, Mayalène Trémollet.
Les polémiques continuent, mais Charles Alloncle persiste. « On ne me censurera pas, on ne me bâillonnera pas », explique-t-il dans les colonnes du Point. Une référence directe aux multiples critiques formulées ces dernières semaines sur sa gestion des auditions, à commencer par un rappel à l'ordre de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale sur les antennes de Radio France. Des critiques qui ont même amené le président Jérémy Patry-Lettus à interdire toute diffusion en direct des travaux de la commission sur les réseaux sociaux. Dans l'entourage de Charles Alloncle, on dénonce un coup de communication du président et on refuse de s'inquiéter. Les Français nous suivent avec un intérêt croissant et je reçois des milliers de messages de soutien, martèle l'élu UDR, pour qui le plus important est désormais de parvenir au bout des auditions. Et le rapporteur sait que l'enjeu des prochains mois est double, puisqu'il doit d'une part maintenir l'exigence de ces questions pour dévoiler l'ensemble des potentielles dérives et gabegies de France Télévisions et Radio France, et d'autre part préserver la crédibilité et le sérieux de cette commission pour donner tort aux accusations de tribunal médiatique ou politique portées par une partie des députés qui en sont membres.
Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1.
Nouveau record de défaillance d'entreprise enregistré l'année dernière, Christophe, ce qui n'est pas une bonne nouvelle au moment où le gouvernement s'apprête à boucler son budget.
70 000 ont été mis en redressement judiciaire, certaines ont mis la clé sous la porte, près de 20 000 rien que sur le dernier trimestre 2025, données publiées par le cabinet Altares. Quand on regarde le bilan annuel Barthélémy Philippe, les chiffres donnent littéralement le vertige.
Oui, les TPE, les PME et les entreprises de taille intermédiaire sont tombées comme des dominos. Près de 70 000 défaillances, dont 47 000 liquidations judiciaires directes. Entre 2022, année de sortie du Covid, et 2025, les défaillances ont bondi de 63%. Si le commerce de détail et le BTP relèvent la tête après avoir touché le fond en 2024, les défaillances accélèrent dans les services aux entreprises, les transports de personnes, la restauration, mais aussi certains secteurs de l'industrie, comme la fabrication de vêtements ou de pièces automobiles. Néanmoins, le record de faillite ne doit pas masquer la résilience des entreprises françaises, selon Thierry Milon, directeur des études chez Altares.
Nous vivons dans une crise permanente, énergétique, géopolitique. Si les entreprises avaient choisi une stratégie de sécurisation, nous aurions malheureusement plus de 70 000 défauts.
Parmi les marques célèbres qui se sont retrouvées devant les tribunaux de commerce ces derniers mois, Brandt, le dernier fabricant de gros électroménagers français, ainsi que les enseignes de prêt-à-porter Jennifer et Naf-Naf.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Le désarroi des petits patrons, la colère des grands mis à contribution dans le futur budget que le Premier ministre s'apprête à faire passer en force grâce au 49-3. Il faut y ajouter, Alexandre, la colère des agriculteurs.
Au moins 4000 d'entre eux sont attendus ce matin à Strasbourg, ainsi que plus de 700 tracteurs. Strasbourg, où le Parlement européen doit se réunir en session plénière.
Ils espèrent obtenir la saisine de la Cour de justice européenne et obtenir ainsi le report de l'entrée en application du Mercosur de plusieurs mois. Commentaire du président de la FNSEA Arnaud Rousseau ce matin dans le Figaro. Les agriculteurs sont laminés par le manque de stratégie et de vision agricole en Europe et en France.
À 5h37 sur Europe 1, nous sommes à présent à Lyon, où un nouveau fléau est en voie d'apparition, le bus surfing, une pratique qui consiste à s'accrocher derrière un bus en mouvement.
Ouais, le phénomène existe en Russie, là-bas on parle de tram surfing, mais l'idée reste la même, s'accrocher à l'arrière du bus et à main nue pour se déplacer, technique prisée des resquilleurs, mais aussi de ceux qui veulent se lancer un défi par jeu ou pour épater les copains sur les réseaux. Un fléau qui inquiète les chauffeurs des TCL, les transports en commun lyonnais. Reportage Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
L'image a fait le tour des réseaux sociaux durant les vacances de Noël. Deux personnes accrochées à l'arrière d'un bus qui lui-même circule à 70 km/h, les pieds sur le rebord de la plaque d'immatriculation. L'angoisse pour Riyad Chérif, conducteur depuis 25 ans, à qui cela est déjà arrivé.
Il y avait une personne accrochée. Il a fallu que je fasse très attention à ma conduite. Et à un moment donné, je me suis même arrêté pour aller constater de visu. Quand je suis parti à l'arrière du bus, j'ai bien vu que deux jeunes étaient partis filer. Mais oui, ça fout un stress et une peur pas possible. Et par contre, c'est très dangereux pour ceux qui s'y accrochent parce que il peut faire des chutes, voire aller jusqu'à la mort.
Un chauffeur qui craint que ces images regardées des centaines de fois ne fassent des émules.
Là, les réseaux sociaux, quand ils s'y mettent, ça peut dire cap ou pas cap. On dit à tous ces jeunes, ne faites jamais ça, ne faites jamais ces défis, c'est stupide.
Du coup, Riyad Chérif, qui est aussi délégué CGT, demande aux autorités qui gèrent le réseau lyonnais de prendre des mesures simples, mais qui pourraient tuer dans l'œuf cette pratique.
Ce que nous demandons aux politiques, c'est commander des bus à surface plane à l'arrière, qu'il n'y a pas d'accroche. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas y mettre les pieds, les mains et autres, que ça soit supralisse, de manière à ce qu'on élimine ce risque.
Pour l'heure, les responsables du réseau ont décidé de ne rien décider, convaincus que le phénomène restait marginal. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Le football avec l'avant-dernière journée de la phase de la Ligue des Champions. Deux clubs français engagés ce soir, Sporting Portugal PSG et Real Madrid Monaco. Les deux clubs français jouent à l'extérieur, vous l'aurez compris, match à 21h à suivre sur Canal+. Et puis l'Euro de handball, sans faute pour les Bleus, vainqueurs de la Norvège 38 à 34 hier soir. Dernière rencontre du tour préliminaire. La France qualifiée pour le tour principal où elle retrouvera, attention, les favoris danois et les vice-champions olympiques en titre allemand.
Merci Christophe Lamar, soyez les bienvenus. Il est 5h39 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Pau dans le Béarn pour ce Quintet à handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 6 à 11 ans qui en découdront sur le parcours de Steeplechase long de 4700 mètres. Et pour bâtir mon pronostic, j'ai opté pour les concurrents ayant fait l'arrivée le 31 décembre du prix Auguste de Castelbajac, un handicap similaire disputé sur le parcours qui nous intéresse avec les numéros 5, Gardons le sourire, 6, King le Dain, 3, Always Love You et 9, Galop du large, arrivés respectivement 2e, 3e, 5e et 6e. Et en revisionnant cette course référence, on peut considérer que ces 4-là sont incontournables et donc indissociables. Ensuite, méfiez-vous d'Inside Montliou, le numéro 7. Certes en demi-teinte depuis le début de ce meeting d'hiver palois, mais que l'on annonce en net regain de forme le matin à l'entraînement. Et Kidnapper, le numéro 2, pour lequel son entraîneur Hugo Mérienne ne m'a pas dissimulé une certaine confiance. Enfin, les numéros 1 Bénou et 8 Nomade compléteront ma sélection. Mon pronostic 5, 6, 3, 9, 7, 2, 1 et 8.
Merci Thierry Léger.
Et rendez-vous sur l'application Europe 1 et sur europe1.fr pour retrouver dès maintenant tous les pronostics de Thierry Léger.
6h20, c'est l'heure de jouer avec Europe 1 Marion. Avant la question du jour, le cadeau à remporter cette semaine.
Eh bien, nous vous offrons une parenthèse de bien-être à l'hôtel Thalazur Carnac. C'est une des 9 escales de la collection Thalazur. L'hôtel Thalazur Carnac, ancré dans la baie de Quiberon, à proximité du golfe du Morbihan, eh bien, c'est un lieu d'élégance, de confort et de soins. Alors, Europe 1 a réservé pour vous un séjour escale détente zen de 3 jours, 3 nuits, à partager bien sûr avec la personne de votre choix. Vous allez vraiment vous ressourcer et vous détendre, notamment grâce à 9 soins individuels d'eau de mer avec bain hydromassant, s'il vous plaît. Vous aurez aussi accès libre au spa marin, à l'espace hammam et au sauna. Vous pouvez retrouver les 9 escales de la collection Thalazur sur thalazur.fr et au salon Les Thermalies du 22 au 26 janvier au Carrousel du Louvre à Paris.
Pour la question du jour, vous redécouvrez aujourd'hui sur l'appli et le site Europe 1 un numéro de l'émission En Liberté avec. C'était en 1965. Jean-Serge reçoit ce jour-là Georges Brassens et Jacques Brel. Les échanges sont variés, le rapport à la mort, le goût pour l'art. Laquelle, écoutez bien, laquelle de ces deux chansons n'a été composée ni par Brassens ni par Brel. Réponse A, les remparts de Varsovie. Réponse B, Jolimôme.
Allez, pour tenter votre chance et répondre à la question, vous envoyez simplement Thalasso au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Et chaque jour, un gagnant est tiré au sort. Un parmi tous les inscrits pourra emporter son abonnement de 3 mois au JD News. Ce matin, on félicite Christiane qui habite Salagnon, c'est en Isère, et qui remporte l'abonnement mis en jeu hier. Bravo à vous, Christiane.
Et bonne chance à tous.
Europe 1, il est 5h43. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, est le docteur Ségolène Perrucchio, chef du service de soins palliatifs du centre hospitalier Rives de Seine à Puteaux, hein, c'est dans les Hauts-de-Seine, et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Bonjour Ségolène Perrucchio.
Bonjour.
Le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui dans les mains des sénateurs. Alors avant de revenir en débat à l'Assemblée le mois prochain, hein, on vous avait entendu, et notamment sur Europe 1, exprimer vos craintes. Le texte qui arrive au Sénat est une version remaniée, docteur Perrucchio. Il s'agit maintenant de légiférer pour ceux qui vont mourir et non plus pour ceux qui veulent mourir. L'aide à mourir devient l'assistance médicale à mourir. Les mots changent donc. Est-ce que votre position aussi, est-ce que vous êtes moins inquiète?
Alors, pas réellement, parce qu'en fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Autoriser le suicide assisté et l'euthanasie pour ceux qui ne seraient pas en capacité de s'auto-administrer le produit, que ce soit pour ceux qui vont mourir ou pour ceux qui veulent mourir, c'est toujours autoriser le suicide assisté et l'euthanasie. Donc, le projet ne change pas. Les modalités d'application, le process change un petit peu, les patients à qui ça peut s'adresser changent un petit peu, mais le projet est le même, ce projet autorise l'euthanasie et le suicide assisté. Et à ce titre-là, nous avons les mêmes inquiétudes et les mêmes réserves.
Oui.
La deuxième chose, c'est que ce qui nous inquiète aussi par-dessus tout, et peut-être plus encore que le projet de l'Assemblée, c'est cette, j'allais dire, incrustation du geste létal, de l'acte létal, de l'acte de donner la mort dans le soin et dans les pratiques de soins. C'est cette suicide assisté, cette euthanasie banale, presque du quotidien, complètement prise dans le soin, encore plus puisque c'est devenu l'assistance médicale à mourir, que c'est le médecin qui a la capacité de prescrire. C'est ça, comme ça que c'est écrit. Mmh. Tout ça étant calqué sur des procédures de soins existants déjà. Et ça, c'est évidemment contraire à ce que les soignants disent depuis des années, que donner la mort n'est pas un soin.
Docteur Perrucchio, pensons dès à présent aux patients, aux familles, aux Français. Ils n'ont pas besoin de ce texte, croyez-vous?
Ils n'ont pas besoin de ce texte, et d'ailleurs, ça n'est pas la demande sociétale. Les gens qui sont en train de mourir, qui sont dans les derniers jours de vie, ce qui est important, ce qu'ils veulent et ce que nous leur devons, c'est de les soulager. Et pour ça, nous avons tous les moyens qu'il faut, tous les moyens médicamenteux, tous les moyens d'accompagnement, y compris jusqu'à la capacité de les endormir pour qu'ils ne vivent pas réveillés ce temps qu'il leur reste à vivre. Donc pour les gens qui sont dans leurs dernières heures et dans les derniers jours de vie, nous n'avons pas besoin de ce texte. En revanche, la demande, c'est une demande qui est autre, c'est une demande de patients souvent bien plus en amont de leur toute fin de vie, parce que ces patients appréhendent, anticipent des moments difficiles, se disent que le temps qui leur reste à vivre, ils ne veulent pas le vivre parce qu'ils ont peur de la souffrance, ils ont peur de la perte d'autonomie, et on le comprend très bien. Et la question, elle est là. Donc ce texte, en plus, ne répond pas à la demande de la société, et donc c'est à craindre que cette notion de court terme soit balayée extrêmement vite à l'Assemblée nationale.
Oui, vous évoquez il y a un instant les conditions d'accès, en quelque sorte, à cette assistance médicale à mourir, qui sont dans cette version plus restrictive. En tout cas, les députés visaient des patients atteints d'une maladie grave et incurable, engageant le pronostic vital à un stade avancé ou terminal. Désormais, nous parlons des pronostics engagés à très court terme, quelques jours tout au plus. Ça ne fait pas une grande différence, malgré tout?
Alors, ça fait une différence sur le nombre de patients qui sont concernés, tout à fait. Alors, c'est pas très court terme, c'est court terme qui a écrit dans le projet de loi.
Oui.
Donc, la HAS dit ça quelques heures à quelques jours, effectivement. Ça fait une différence sur le nombre de patients qui seraient potentiellement, on va dire, éligibles. Mais il faut pas se tromper, même le court terme, à qui vous allez dire « Ah, ben non, il vous reste 7 jours, vous 8, vous 9 », d'abord, on n'en sait rien. Et donc, ça reste encore une notion qui est floue, même si elle est bien moins qu'avant. Et le principe reste le même. On introduit le fait de donner la mort dans l'acte de soins. Donc, oui, ça change un petit peu sur le nombre de patients, mais pas fondamentalement sur le reste.
Donc pour bien comprendre, si ce nouveau droit à mourir est consacré, votre crainte, si je vous suis bien, docteur Péricot, c'est qu'on ait ouvert ici en réalité la boîte de Pandore, que les conditions d'éligibilité, entre guillemets, s'élargissent, s'assouplissent avec le temps.
De toute façon, à partir du moment où la société dit qu'il est justifié de donner la mort à quelqu'un qui la réclame pour qu'il ne souffre pas, qui sommes-nous et qui est la société pour dire qu'on ne souffre qu'en toute fin de vie, qu'on ne souffre qu'avec du moyen terme, qu'on ne souffre que physiquement, qu'on ne souffre que quand on est malade? Malheureusement, la souffrance, elle est bien plus... Il n'y a pas qu'en fin de vie qu'on souffre. Donc, c'est l'ouverture du droit à être euthanasié ou être aidé à se donner la mort parce qu'on souffre et pour ne pas souffrir, c'est forcément la porte ouverte. Et les exemples des pays étrangers qui ont pris ce chemin il y a des décennies, il y a des années, voire des décennies, nous le montrent bien, c'est exactement ce qui se passe en Belgique et au Canada notamment, où comme le chemin qu'on prend, l'acte euthanasique est profondément intégré aux soins.
Oui, parce que vous qui, je le rappelle, travaillez au quotidien dans un service de soins palliatifs auprès des malades dits incurables, docteur Ségolène Perrucchio, qu'est-ce que vous constatez sur ce choix d'en finir? C'est que, justement, il n'est pas toujours librement exercé, toujours conscient?
Ah, il est la question de la liberté. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est libre quand on souffre? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est libre quand un patient sur deux qui relève d'une prise en charge palliative ne peut pas y avoir accès? Donc cette question de la liberté est un vrai faux débat. La vraie question, c'est de quoi ont besoin les gens? Et nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est que les gens, ils ont besoin d'être soulagés et d'être accompagnés. Et je mets les deux en même temps, parce qu'on ne peut pas toujours tout soulager dans la vie. C'est évidemment comme dans la vie, on ne peut pas notamment soulager la peur de la mort, la tristesse de la séparation à venir, mais on peut accompagner, on peut être là. C'est ce que font les acteurs de soins palliatifs, c'est ce que font les soignants en général, c'est ce que peuvent faire aussi les bénévoles, par exemple, d'accompagnement, qui témoignent de cette présence de la société, y compris civile, auprès de ces patients. Et je suis ça, le témoin quotidien de ce que ça peut apporter aux patients et à leurs proches.
Les soins palliatifs doivent être l'autre pilier de ce projet de loi. Alors là, vous êtes également en première ligne. Vous alertez, et ce n'est pas d'hier, sur un manque de moyens chronique et criant.
C'est sûr qu'évidemment qu'on est très content d'avoir une loi qui a été votée à 100% des suffrages exprimés à l'Assemblée nationale, et que c'est très bien. Mais nous, au-delà d'une loi, on a surtout effectivement besoin de moyens, on a besoin de formation et on a besoin d'information. Et c'est la Cour des comptes, je le disais tout à l'heure, qui nous a dit en 2023, un patient sur deux qui relève de soins palliatifs ne peut pas en bénéficier. Accepterions-nous ça pour une appendicectomie ou pour une fracture de la cheville? Excusez-moi, un patient sur deux peut juste être opéré de la cheville, donc vous non. En fait, il y a quand même une tolérance à ce manque qui existe encore. Il faut que ça change.
Si les désaccords persistent entre députés et sénateurs, ce qui est probable, il y aura commission mixte paritaire, l'Assemblée, comme c'est prévu, aura le dernier mot. Ça, c'est un scénario qui vous inquiète, c'est-à-dire l'idée d'aller vers une version finale du texte par trop permissive?
Bien sûr. Alors, c'est pas tant les mécanismes législatifs qui m'inquiètent que le fait qu'on s'achemine vers une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté ancrée dans les pratiques de soins, alors que justement nous disons fermement que donner la mort n'est pas un soin. Aujourd'hui, vous avez des soignants qui s'engagent parce que la mission d'un soignant, c'est de guérir autant que possible et de soulager toujours, accompagner toujours. Demain, la mission des soignants sera de guérir autant que possible, soulager et accompagner tant que c'est temps, ils ont encore le temps, et de donner la mort parfois. Ça change absolument fondamentalement notre métier, ça change la relation qu'on va avoir aux patients, et je pense que ça va la dégrader.
Docteur Ségolène Perrucchio, chef du service de soins palliatifs du centre hospitalier Rives-de-Seine à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Merci Ségolène Perrucchio.
Merci à vous.
Europe 1, bonjour.
5h, 7h. Alexandre Lemaire.
Bon réveil avec Europe 1, il est 6h10, le journal permanent, Christophe Lamarre.
Sébastien Lecornu engagera aujourd'hui la responsabilité du gouvernement pour faire passer le budget 2026. Le Premier ministre utilisera une première fois le 49.3 cet après-midi sur la partie recette. Deux autres 49.3 devraient suivre. Le Rassemblement National et la France Insoumise annoncent le dépôt de deux motions de censure. Elles ont peu de chances de renverser le gouvernement, le PS ayant assuré l'exécutif de son soutien. La catastrophe ferroviaire de Cordoue en Espagne, le bilan provisoire s'élève à 40 morts et 41 blessés. Le pays entame aujourd'hui le premier de ses trois jours de deuil. Les secours redoutent de retrouver d'autres victimes dans les carcasses des deux trains entrés en collision à grande vitesse. La crise du Groenland et la volonté américaine de s'emparer de ce territoire au cœur du Forum économique de Davos. Discours très attendu d'Emmanuel Macron prévu aujourd'hui à 14h. Donald Trump est attendu, lui, demain. Et puis le tennis à l'Open d'Australie. Varvara Kravtcheva qualifiée pour le deuxième tour. La Française a battu la Suissesse Victoria Golubic en trois manches.
Merci Christophe, le journal de 6h dans moins de 10 minutes sur Europe 1.
Europe 1. Excellent début de journée à l'écoute d'Europe 1. Bonjour avec Alexandre Lemaire. Il est 5h52.
C'est votre club culture. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Alexandre.
Vous nous parlez ce matin, Nicolas, du nouveau roman de Delphine de Vigan.
Oui, toujours très attendu, les romans de Delphine de Vigan. Le précédent, c'était Les enfants sont rois. Une mère de famille devenue influenceuse sur YouTube, ça se transformait en un roman captivant. Delphine de Vigan continue l'exploration des phénomènes de notre époque, mais cette fois, elle s'intéresse à notre vie privée, notre manie de la laisser traîner dans notre activité numérique. Écoutez LinkyPit. Dernière recherche Google effectuée par Roman Monnier le 8 mars 2025 à 18h55. La Malice, bar bistrot, 4,2 étoiles, 345 avis, charcuterie, petites assiettes et vin naturel dans un bar à l'ambiance détendue. Je vous fais pas tout. Il y a tous les détails de la page. Prix moyen, avis divers de Clotilde 78 ou Petit Jules 21.
Bon, c'est très parlant tout ça. C'est écrit entièrement comme ça?
Non, heureusement, la page d'après ressemble plus au style de Vigan, mais tout le roman est émaillé de pages numériques. Il y a des SMS, des DM, Instagram, des vocaux même. Il s'agit de la fouille en règle du téléphone de Roman Monnier. Mais pour l'instant, on s'intéresse à Thomas, la cinquantaine des abusés. Pas malheureux, mais éteint, dans une phase à quoi bon. La dernière fois qu'il a voulu partir en vacances, il a hésité indéfiniment entre la Grèce et l'Italie. Et à force, comme l'âne de Buridan, il n'a rien décidé. Bref, ça va aller, coup de mou, ça arrive. D'ailleurs, son pote Nathan est là, qui lui donne rendez-vous à la Malice. On en parlait justement, Roman Monnier aussi a des rendez-vous à la Malice, on le sait parce qu'on a lu ses textos échangés avec ce qui ressemble à un date d'appli de rencontre. Pascal, chemise blanche, veste noire. Et toi, Roman, moi aussi, Pascal. Tu ressembles à la photo? Roman, bien sûr que non, Pascal. Trois points d'interrogation inquiets.
Bon, alors la question, comment se fait-il que vous ayez accès aux textos?
Ça met mal à l'aise, hein. Ben c'est oui. Illégal de fouiller le téléphone d'une dame et de quiconque d'ailleurs. Et ben c'est Thomas qui fouille. Le lendemain de la Malice, il cherche son téléphone mais il ne trouve pas. Il regarde dans son blouson, enfin. Mais non, c'est pas le sien. Quelqu'un, la fille juste à côté de lui dans le bar hier soir, sans doute a dû échanger son téléphone avec le sien par mégarde. Il retourne à la Malice, rien. Il essaye d'appeler son téléphone avec le téléphone de la voisine, rien non plus. Et il réessaye encore et encore dans la journée et finalement, quelqu'un décroche, une jeune femme. Elle a le téléphone, elle lui demande son adresse, elle lui dit qu'elle va lui faire déposer le téléphone, mais en revanche, elle refuse de récupérer le sien. Il insiste, c'est non, gardez-le. Et il reçoit une enveloppe avec son téléphone et une carte sur laquelle sont inscrits des chiffres. Ce sont les codes. Pourquoi? Aucune idée pour l'instant, mais il commence à fouiller. Et on regarde aussi, bien entendu, c'est addictif, très précis, drôle parfois. C'est un très très bon Delphine de Vigan.
Je suis Roman Monnier, roman signé donc Delphine de Vigan chez Gallimard. Merci Nicolas.
Repas bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.
6h moins 5, comme chaque mardi, voyage en absurdie. Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion et
vous
bonjour à
revenez,
tous.
Vous revenez, Emmanuel, ce matin sur cette manifestation dimanche en Gironde contre l'installation d'un élevage de saumon en cuve. Nous sommes au Verdon-sur-Mer, près de 700 manifestants. Vous y voyez, Emmanuel, une nouvelle incarnation des paradoxes français sur l'alimentation et l'environnement.
Oui, sachez que selon la plupart des médias qui ont traité cette manifestation, on ne parle pas d'un élevage de saumon ou de pisciculture, mais d'une méga usine à poissons ou d'une giga aquaferme industrielle. Les mots ont leur importance quand on veut détruire une idée et force est de constater que les militants écologistes qui s'opposent à cet élevage ont gagné la bataille des mots, repris sans le moindre discernement. Personne ne s'intéressera donc au fond du projet qui a pour mérite de ne pas polluer la mer puisqu'on parle d'un élevage dans des cuves avec de l'eau en circuit fermé. Personne ne s'intéressera non plus au fond du problème, notre absence totale de souveraineté en produits de la mer et notre refus d'améliorer la situation.
Alors que nous avons en France le deuxième domaine maritime au monde, nous sommes totalement dépendants en poissons et en crustacés.
Oui, selon le spécialiste de la géopolitique alimentaire Sébastien Abyss, qui publie régulièrement des chroniques dans l'Opinion, plus de 90% des poissons et des crustacés consommés dans notre pays sont importés. En 2024, la France a affiché une balance commerciale négative de 4,6 milliards d'euros dans cette catégorie, notre seconde dépendance la plus importante après le café. Une facture qui augmente avec le temps. Et la France ne réagit pas, en dépit de ses ressources parmi les plus importantes au monde, un incroyable gâchis.
Et dans cette ardoise, le saumon pèse lourd.
La France est le premier pays consommateur d'Europe, 300 000 tonnes par an. Et on en produit royalement 300 tonnes, 0,1% de notre consommation. Tout le reste est importé de Norvège, d'Écosse ou d'Alaska. Mais il y a mieux, les trois quarts de ces saumons importés sont des saumons d'élevage, ce que certains refusent donc qu'on élève chez nous, y compris quand l'élevage est plus vertueux parce qu'il ne nuit pas aux fonds marins, comme ce serait le cas en Gironde. On se fiche parce qu'on n'est pas à une contradiction près que l'aquaculture ait considérablement fait baisser la pression sur les écosystèmes sauvages. Ben, peu importe, en France, on n'en veut pas. Par principe, on préfère que d'autres fassent le sale boulot loin de nos yeux.
Mais alors, que voudraient les opposants à ces élevages de saumon ?
Ben, on ne sait pas, tout et son contraire, le saumon, le beurre blanc et le sourire du pêcheur. Comme à chaque fois qu'on brandit la bannière environnementale contre le moindre projet économique, c'est la foire aux contradictions et à l'hypocrisie. La question des protéines animales est un cas d'école. Alors, il faut manger moins de viande rouge, mais on refuse les élevages de volailles. Le poisson, c'est mieux, mais sans pêche et sans élevage. On veut du local et du vertueux, mais pas fait ici, tout en étant évidemment contre les importations. Il faut que ce soit pas cher en plus. Alors on noie le poisson et on n'en finit pas, nous, de couler.
Voyage en absurdie tous les mardis. Emmanuel Ducrot, merci. On vous retrouve tout à l'heure à 9h10 dans Europe 1 Matin. Bientôt 6h, votre météo dans un instant, Marion Gagnot. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, rendez-vous avec Ombline Roche. Bonjour Ombline.
Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous.
Dans votre partition à 6h20.
Alors qu'Oasis a triomphé sur scène en 2025, je vous raconte la première tournée américaine des Anglais qui, elle, a viré au désastre. I'm free. La partition d'Oasis dans 20 minutes sur Europe 1.
Et dans un quart d'heure, Marion, l'édito de Laurent Tessier.
Oui, Laurent vous parlera des derniers messages bouleversants de Camélia, élève harcelée envoyée à sa maman avant son suicide.
Attention, ce 20 janvier, Marion, toujours 5 départements en vigilance orange.
Et oui, parce que ce matin, on a toujours de fortes pluies sur le Roussillon et sur l'est de la Corse, de la neige pour les Pyrénées aussi, la montagne Corse. Alors, cet épisode devrait se terminer en fin de journée, mais pour l'instant, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et les deux départements Corse sont effectivement en vigilance orange, pluie, inondation ou crue avec de gros cumuls, hein, 258 mm en 40